Hello et bienvenue sur Entreprendre dans la Santé, le podcast qui a pour but de t'inspirer et de t'en apprendre plus sur l'entrepreneuriat dans la santé à travers le parcours de celles et ceux qui ont sauté le pas. Chaque discussion te permettra de tirer des choses concrètes et applicables de leurs réussites et erreurs, leurs stratégies et insights. Je suis Jean-Baptiste Michel, passionné d'entrepreneuriat et étudiant en master en management de la santé et data intelligence, et je te souhaite un bon épisode. Dans cet épisode d'Entreprendre dans la santé, j'échange avec Edouard Gasser, cofondateur et CEO de Tilak Healthcare, une start-up développant depuis 2016 des jeux vidéo cliniquement validés qui améliorent le diagnostic et le suivi des maladies chroniques. Avant d'entreprendre, Edouard a travaillé dans les jeux vidéo mobiles chez Gameloft en tant que chef de projet à Paris, directeur de production à la Nouvelle-Orléans et enfin directeur de studio à Madrid. Ce passionné de technologie a également été rédacteur pour TechCrunch France et a cofondé Productism, un site de partage d'achats via les réseaux sociaux. Dans cette discussion, Edouard nous explique comment la gamification transforme-t-elle le suivi des patients atteints de maladies chroniques, comment créer un processus visant à amener sur le marché un jeu ou une app cliniquement validée, et enfin, comment distribuer un produit de e-santé à grande échelle via des partenariats stratégiques. Bonsoir ou bonjour, bienvenue sur un nouvel épisode d'Entreprendre dans la santé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Edouard Gasser, cofondateur et CEO de Tilak Healthcare. Salut Edouard, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Salut Jean-Baptiste, avec plaisir.
Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me fait kiffer. C'est pour ça que je t'ai contacté aussi. On va parler de jeux vidéo médicaux. C'est quelque chose de complètement novateur. Je pense que moi, au moment où j'ai découvert l'aventure de Tilak, vous étiez les pionniers. Tu vas nous dire ce qu'il en était au moment où vous avez fondé Tilak et aujourd'hui, comment ça a évolué toute cette industrie du jeu vidéo médical.
Ouais, avec plaisir.
On va passer 45 minutes tous les deux à revenir sur toi, qui tu es et tout simplement comment tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat en santé. Jusqu'à arriver au challenge que tu rencontres au quotidien avec Tilak et puis ta vision de la santé, comment tu comptes la transformer à travers le jeu vidéo. C'est parti ?
C'est parti.
Cool. Écoute, je te laisse te présenter vraiment à partir du tout début, nous expliquer un peu dans quel environnement tu as grandi et quel type de personne tu étais au moment de te lancer, on va dire, dans les études et puis par la suite dans le monde professionnel.
Ouais, alors c'est un vaste programme. Moi, j'ai grandi dans l'est de la France et j'ai toujours été passionné à la fois par le divertissement et par les nouvelles technologies. Mon père était, j'ai beaucoup de personnes dans ma famille qui étaient du domaine de la santé. Mon père était chirurgien-dentiste, mon oncle était médecin. Donc, je pense que j'ai toujours un peu baigné dans le domaine de la santé. Maintenant, quand j'ai commencé mes études, je ne suis pas du tout parti dans le domaine de la santé puisque j'ai décidé de faire une école de commerce, une prépa puis une école de commerce. Et quand j'ai fait mon école de commerce, j'ai fait un stage qui a été assez fondateur, enfin deux stages qui ont été fondateurs. Un premier où je suis parti à San Francisco où j'ai découvert véritablement le monde des nouvelles technologies. Et puis un deuxième où j'ai commencé à travailler chez Gameloft qui est encore un éditeur de jeux mobiles de renom. Ça combinait parfaitement ce que je voulais faire, c'est-à-dire à la fois du divertissement et puis en même temps les nouvelles technologies. Donc j'ai commencé chez Gameloft en tant que chef de projet, puis ensuite je suis devenu directeur de production à la Nouvelle-Orléans aux États-Unis. Je suis parti de Paris, puis je suis allé à la Nouvelle-Orléans aux États-Unis, puis ensuite je suis revenu en Europe parce que j'ai dirigé le studio de création de jeux de Madrid chez Gameloft. Et c'est en 2016 en fait où j'ai été contacté par le professeur José Alincel, qui est directeur de l'Institut de la Vision. Ouais, dis-moi.
Tu vas très vite. je me permets de t'interrompre parce que du coup, ouais. Le but c'est de comprendre aussi, toi, comment ces différentes expériences elles ont façonné l'entrepreneur que tu es aujourd'hui. Donc, je vais me permettre de revenir toi sur ton intérêt pour la tech, le jeu vidéo.
Ouais.
Est-ce que tu avais un profil de créatif à la base ou est-ce que c'est quel en fait dans quelle case du jeu vidéo tu te mettais au tout début? Est-ce que c'est le côté artistique, design du jeu vidéo ou est-ce que c'est le côté marketing qui t'intéressait? Un peu comprendre vraiment ce qui t'intéressait dans cet univers.
Ouais, alors c'est moi à la base je suis pas un créatif, enfin j'ai je dessine pas très bien. Mais par contre, j'ai toujours eu un sens aigu des choses créatives. Puis j'aime le média de manière générale. J'aime jouer, j'aime écouter de la musique. Je mate énormément de séries. Et je suis rentré dans le jeu vidéo parce que j'adorais le média. Et puis j'avais envie vraiment de faire de la gestion de projet, de projet. C'est-à-dire, nous, notre rôle, quand on est arrivé chez Gameloft, le titre que j'avais, c'était producteur. Et c'est vraiment au sens américain du terme, c'est-à-dire, c'est un mélange entre directeur créatif, gestion de projet, product owner. Enfin, il y a plein de dénominations différentes. Mais en tout cas, c'est à la fois gérer l'équipe, gérer le budget, gérer le planning, mais aussi gérer la qualité du produit. Et je pense que je viens plus d'ailleurs de ce côté-là que du côté purement managériel et opérationnel. Et puis chez Gameloft, j'ai découvert un format fantastique qui était le jeu mobile. Moi, je viens plutôt du jeu console à la base. Enfin, j'ai eu toutes les consoles possibles et imaginables pendant ma jeunesse.
Ouais, attends, c'était quoi ton style de geek? Tu étais plutôt voiture, plutôt first person shooter.
Ouais, moi je suis né vraiment plutôt avec du c'est plutôt du casual gaming, c'est-à-dire que moi j'aimais les platformers dans les années 90. J'étais pas Super NES, j'étais plutôt Sega Mega Drive. J'avais littéralement tous les platformers imaginables. Mon jeu préféré à l'époque, bon, j'étais jeune, hein, c'était Aladdin, puis le Royaume. Enfin bref, j'étais un peu dans cette ma génération, hein.
Ça, j'ai joué sur la Sega Mega Drive aussi.
Ouais, Aladdin. C'est un peu ma Madeleine de
Sonic aussi.
Puis après, ouais, arrivé la Nintendo 64, où là on a commencé à vraiment faire des choses plutôt multiplayer, notamment mon jeu préféré all time, ça restera GoldenEye, tu vois, sur N64. J'ai pas été trop un gamer sur PC, je suis toujours resté plutôt console, et après je suis resté dans du casual gaming. J'aimais bien les jeux de caisse, j'aime bien les jeux d'aventure, mais voilà, enfin en gros, j'aimais les grosses productions.
Ouais.
Enfin, tu vois, c'est comme au cinéma, moi quand je vais au cinéma, je vais voir un gros film d'action.
Donc t'allais voir, ouais, c'est ça, t'aimes et c'est intéressant parce que du coup après t'es allé aux États-Unis, donc ce truc du blockbuster, du gros jeu, t'attirait déjà. Est-ce que c'est, enfin tu vas nous le dire après, mais est-ce que c'est un peu l'ambition que t'as aujourd'hui avec T-Lag, c'est d'être, je sais pas, une sorte de blockbuster dans la santé, d'être un géant du jeu vidéo dans la santé?
Alors je pense que je suis rentré par là, c'était un peu la machine à rêve. Enfin, je veux dire, je suis vraiment né, j'ai vécu à l'époque de Spielberg et puis ensuite des grosses productions. Enfin, donc si tu veux, les États-Unis me fascinaient clairement, il y a une énorme, t'es quand même percé par la pop culture des années 80-90. Après, je suis arrivé dans le milieu, et je pense que à mesure que tu grandis, tu t'éduques aussi sur le secteur, tu commences à aller chercher des jeux un peu différents, et je pense que mon goût a un peu évolué. Maintenant, c'est clair que quand je suis allé aux États-Unis, je voulais voir comment ils faisaient les choses. Tu vois, je voulais comprendre comment ça se passait, parce que ils ont une manière de faire qui est quand même vraiment différente. Alors maintenant, je pense qu'on fait très bien. Il y a une culture du jeu extrêmement forte en France. On le voit avec Ubisoft.
Ubisoft, oui.
Ouais, et puis même, tu vois des boîtes comme Dontnod. Enfin, il y a énormément de studios français qui font du boulot incroyable. J'ai pas mal de potes qui continuent à travailler dans le jeu mobile et dans le jeu console, et qui font des choses extrêmement fortes en France. Mais bon, les États-Unis étaient quand même, enfin, en tout cas pour moi, c'était un peu Donc c'est pour ça que je suis parti aux États-Unis, et plutôt sur la côte ouest.
Ouais.
Alors je suis arrivé à San Francisco, je faisais pas du jeu à l'époque. Hein. J'ai vraiment fait un stage dans les nouvelles technologies, et ce qui m'a fasciné, c'était à quel point ça avançait rapidement, à quel point il fallait tout le temps se remettre en question, il fallait que le produit évolue en permanence, ils avaient des méthodes managériales qui étaient beaucoup plus évoluées que ce qu'on voyait en France à l'époque. Et si tu veux, quand je suis revenu et que j'ai fait mon premier stage chez Gameloft, je trouvais ça absolument génial parce que je combinais un peu mes deux passions, d'un côté le jeu et puis les nouvelles tech. Et je trouvais la plateforme était fantastique. J'ai commencé, on faisait des jeux sur Nokia 3210. C'était en 25 pixels par 25 pixels. C'était des side scrollers en 34 nuances de gris. Enfin, vraiment, c'était, tu vois, des petits jeux qui faisaient 25 kilobits. Et puis l'iPhone est arrivé en 2007 et là on a commencé à pouvoir faire des jeux 3D et maintenant ce qu'on produit sur mobile c'est
ouais, ça a rien à voir.
Production assez incroyable. Donc ça a été hyper excitant quoi.
C'est quoi la culture d'entreprise dans le jeu vidéo? Qu'est-ce que t'en as tiré toi de travailler chez Gameloft pendant plus de 10 ans, c'est ça? Est-ce que il y a vraiment une manière de faire? Tu vois une manière de travailler, notamment travailler sur le produit. Je pense en termes de sprint, en termes de, enfin, d'itération produit. Ça doit être assez fou, tu vois, quand on joue à un jeu vidéo, quand on consomme du jeu vidéo, on voit le nombre de mises à jour qu'il y a et le nombre d'améliorations constantes qui sont faites. Est-ce que c'est quelque chose toi qui t'a marqué?
Ouais, alors surtout ce qui m'a plu direct, parce que c'était déjà l'ambiance, quoi. Enfin, on est avec des gens passionnés, alors déjà ça c'est fantastique, d'avoir la chance de travailler sur un produit qui vous éclate, de travailler avec des gens créatifs, et aussi je travaillais avec des gens qui avaient des profils totalement différents, c'est-à-dire que la plupart des gens qui sortaient de mon école allaient dans des boîtes où globalement ils travaillaient avec des personnes comme eux. Et quand tu arrives dans une boîte de jeux, les gens sont pas comme toi. Enfin, c'est un mélange absolument fantastique où tu as des gens qui ont pas du tout les mêmes envies que toi, qui ont pas les mêmes formations que toi. Et quand tu es producteur, chef de projet, ton rôle, c'est d'être un peu chef d'orchestre, de mettre en musique tout ça. Et moi, je trouvais ça génial parce que pour moi, c'est ça innover. C'est vraiment réussir à faire travailler des gens qui sont pas censés travailler ensemble et de réussir à sortir un produit qui est unique. Et c'est du coup ce que j'ai retrouvé plus tard chez Tilak parce que on a fait travailler des médecins avec des designers de jeux et je peux te dire que ça n'a rien à voir et c'est ce qui rend je pense le produit hyper excitant et c'est ce qui rend aussi c'est ce qui remplit l'aventure Tilak de rebondissements quoi de manière générale.
Justement, tu vas nous en parler. Donc, je te laisse poursuivre ce que tu avais commencé. Comment toi, t'as quitté Gameloft? Pourquoi t'as quitté Gameloft? Et tout simplement, comment s'est passée la transition? Est-ce que t'es passé directement à l'entrepreneuriat? Ou est-ce que t'as pris un job entre les deux? Tu vois, comprendre vraiment, moi, ce que j'aime, c'est comprendre comment on passe d'une étape à l'autre comment le commun des mortels peut y parvenir, tu vois, quand on a un job et surtout tu devais être super bien, je pense, loti, tu avais un bon job, tu devais être bien payé, tu avais fait tes preuves chez Gameloft. Comment tu quittes Gameloft?
Ouais, c'est une super bonne question. Alors c'est un cheminement qui a pris plusieurs années. Alors il faut savoir que j'ai eu une première période chez Gameloft entre 2007 et 2010. Où j'étais chef de projet à Paris et fin 2010, je décide de monter avec un pote à moi que j'avais rencontré dans la Silicon Valley une première boîte qui s'appelait Podcast. C'était du social commerce sur le web parce que j'avais déjà envie de monter une boîte. Je pense qu'on avait été nourris en allant dans Silicon Valley par cette envie de faire quelque chose nous-mêmes et c'était un pote qui avait un profil complètement complémentaire de moi et qui a d'ailleurs monté une autre boîte qui cartonne en ce moment. Et ça a été ma première expérience avec l'entrepreneuriat. J'ai fait ça pendant 8 mois. Ça a pas marché, mais on a appris énormément de choses. Et moi, j'avais toujours dit, si ça marche pas, je reviens chez Gameloft parce que j'adore mon taf.
Tu peux juste nous définir ce que c'est que le social commerce sur le web?
En fait, c'était un site où tu te connectais avec Facebook ou Twitter et tu parlais des produits que tu avais achetés pour créer une sorte de discussion autour de ces produits avec tes amis. Et après, c'était un système d'affiliation, c'est-à-dire qu'en gros, on voulait faire une sorte de TripAdvisor du produit, mais avec des avis vérifiés pour que les gens soient tout simplement plus avertis sur la qualité des produits, quoi, en gros. Okay. Donc, c'était pas forcément le jeu, mais c'était une aventure entrepreneuriale que je voulais faire. Et en parallèle, j'écrivais aussi pour TechCrunch. Enfin, je continuais à nourrir ma passion pour les nouvelles tech. Mais bon, ça n'a pas fonctionné. On a appris énormément de choses, mais ça n'a pas marché. Donc, au bout d'environ un an, j'ai décidé de revenir chez Gameloft et cette fois-ci pour une nouvelle aventure. Et parce que j'avais envie de voir autre chose qu'être chef de projet à Paris. Et Gameloft m'a proposé d'aller prendre la direction de la production du studio de la Nouvelle-Orléans aux États-Unis. Et j'avais envie de retourner aux US, et puis c'était une nouvelle ville, la Nouvelle-Orléans, c'est Chambé, donc du coup, j'étais super content. Et là, j'y ai passé une dizaine de mois, où là, j'étais vraiment en local avec les équipes de création, parce que quand on est à Paris, on est en distanciel des équipes de création. Et donc du coup, c'était hyper intéressant d'être au sein des équipes vraiment de création et de diriger les productions. Et puis assez rapidement, en fait, j'ai eu une autre opportunité à Madrid pour un poste encore plus important au studio de création de Madrid. Et là, je devais diriger, c'était un studio d'environ 70 personnes qui est monté à 120 personnes, où j'avais 5 à 6 productions en même temps sur différentes plateformes, essentiellement bien évidemment mobile. Et j'ai fait ça pendant 4 ans. On a sorti une vingtaine de jeux et c'était absolument top. Mais j'étais arrivé à la fin de mon aventure tout simplement parce que après avoir produit quasiment 30 jeux mobiles chez Gameloft, il y a eu le rachat de Gameloft par Vivendi qui a changé un tout petit peu les dynamiques d'entreprise. Je pense que j'étais à un moment où moi j'avais envie de, un, de rentrer en France, deux, de découvrir quelque chose de nouveau. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré le professeur Sahel. Et là, on passe à l'aventure Tilak. J'étais très content chez Gameloft, mais j'avais vraiment envie de me lancer dans un nouveau projet parce que j'avais fait tout simplement le tour, quoi. Et je pense qu'il faut sortir de sa zone de confort au bout d'un moment.
Ok. Et donc, pour comprendre concrètement, tu rencontres ce professeur qui est spécialiste en quoi, du coup ?
Alors, le professeur Sahel, c'est un peu le pape de l'ophtalmologie en France. Hein. Il est directeur de l'Institut de la Vision et maintenant aussi directeur du département d'ophtalmologie à l'hôpital de Pittsburgh aux États-Unis. Donc, c'est vraiment un éminent professeur en ophtalmologie. Et je discute avec lui et il me dit... voilà, moi j'adore les nouvelles technologies, j'ai un souci pour suivre certains de mes patients qui sont atteints de certaines maladies des yeux liées à l'âge. J'aimerais un outil qui puisse me renvoyer en temps réel des données sur l'évolution de leur vision. Maintenant, je connais bien les nouvelles technos et je sais qu'un des gros enjeux, ça va être vraisemblablement de retenir et d'engager les utilisateurs sur le long terme pour m'assurer que j'ai suffisamment de données pour avoir un impact sur leur parcours de soins. Parce que j'ai essayé des outils et malheureusement, au bout d'un certain temps, les gens ils arrêtent d'utiliser. Donc du coup, j'ai pas de données et ça sert pas à grand chose. Et je pense que c'est quelque chose qui est très sous-estimé de manière générale dans le monde des applications digitales. Ceux qui connaissent bien le secteur le maîtrisent. C'est l'impact de l'engagement, de la rétention sur le succès d'une application.
Ouais, c'est le truc à la base de toute application mobile, c'est comment tu fais que ton utilisateur il va revenir et comment tu fais qu'il passe le plus de temps possible sur ton appli. Voilà. Tous les réseaux sociaux, alors pourquoi ils marchent? C'est tout simplement parce qu'ils nous font rester avec des systèmes de notifications, d'invitations, de liens qui te redirigent.
Exactement. Et si tu regardes en plus l'univers mobile, ce qu'il y a de fascinant, c'est que derrière, effectivement, les médias sociaux les messageries, où là, il y a un direct contact avec sa famille et ses médecins. on revient souvent, forcément, parce qu'on est notre tissu social nous ramène tout simplement dans l'application. Bah, derrière, il y a un secteur qui a vraiment appréhender ça, je dirais, avant tout le monde, c'est le secteur des jeux mobiles et plus particulièrement des jeux mobiles gratuits. Parce que quand on est arrivé quand on est passé du jeu payant, c'est-à-dire où on payait 8 euros pour pouvoir jouer au jeu, à ce moment-là, on avait accès à tout le contenu, à un jeu gratuit c'est comme Candy Crush, c'est-à-dire qu'on peut jouer autant qu'on veut, mais au bout d'un moment, si on veut aller plus loin dans le jeu, il faut payer, il faut payer de l'énergie, il faut payer des, si on veut avancer aussi, d'un point de vue expérience, d'un point de vue du score, d'un point de vue de ce qu'on appelle l'XP dans le jeu, il faut souvent on pousse un peu à l'achat et donc il y a une réflexion qui a été entamée hyper tôt sur comment on fait pour retenir l'utilisateur et l'engager, et le jeu a un impact fondamental justement sur cet engagement. Donc, quand j'ai discuté avec le professeur Sahel, lui savait que le jeu avait cet impact-là. Il m'a dit, est-ce que tu penses que c'est possible de faire un jeu qui me permettrait à la fois d'avoir des données médicales et en même temps que mes patients puissent rester captifs dans l'application. Et si tu veux, il m'a pas fallu littéralement 2 minutes pour me dire, mais effectivement, il y a un truc fantastique à faire, d'autant que je pense que c'était des réflexions que j'avais déjà eues un peu personnellement. Voilà.
On était en quelle année, là ?
2016.
Ouais, 2016. 2016, c'était quoi un peu tes inspirations en termes de jeux vidéo mobile ? Est-ce que c'était... Enfin, les gros du milieu, c'était quoi ? Il y avait Candy Crush qui était déjà là.
Ouais, alors le top du top à l'époque, c'était Supercell. Ils avaient sorti Clash of Clans un peu avant, je crois que c'était 2012.
Ouais.
Et ils venaient de sortir.
Mais oui, ouais.
Si je n'abuse, ouais. Que je te dis pas de bêtises, il y avait Clash Royale qui ouais. arrivait. Et donc, si tu veux, c'était hyper léché. C'était des produits qui étaient vraiment bien produits. Il y avait effectivement Candy Crush et King qui étaient bien présents. Après, on commençait à voir l'émergence du casual gaming. Alors, c'est-à-dire ces jeux qu'on voit qui cartonnent en ce moment et c'est des boîtes comme Voodoo qui a un autre style de jeu où en fait, c'est des jeux avec des sessions extrêmement courtes, avec un jeu extrêmement addictif. Et en général, c'est de la pub qui va faire le processus de rémunération. Moi, je suis plutôt de l'ancienne école, c'est-à-dire je faisais des jeux plutôt à haute production. D'ailleurs, les jeux que j'ai sortis, c'était plutôt du AAA gaming, des jeux de voiture comme Asphalt Extreme, Asphalt Overdrive.
Plutôt le côté très léché et ouais. Où il faut payer pour unlock de nouvelles fonctionnalités. Est-ce que tu pourrais donc nous expliquer, toi, un peu plus quel était le besoin en termes de parcours de soins et en quoi, tout simplement, vous vouliez répondre à ce besoin grâce aux jeux vidéo.
En fait, ce dont on s'est rendu compte, et quand j'en ai parlé avec le professeur Sahel, il me dit, voilà, moi, j'ai besoin, malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps. Enfin, on le sait, les ophtalmos n'ont pas beaucoup de temps, ils voient énormément de patients. Il y a 5 à 6 ophtalmos pour 100 000 personnes en France. Et sur ces pathologies-là, qui sont des maladies graves, dégénératives, qui malheureusement mènent à la cécité, il y a un besoin de suivi régulier pour savoir quand est-ce qu'il faut injecter ou en tout cas quand est-ce que la vision change pour soutenir la vision justement grâce à ce qu'on appelle des injections anti-VEGF qu'on met dans l'œil pour les mettre au bon moment si tu veux. Aujourd'hui, les protocoles fonctionnent bien, mais on sait qu'on pourrait injecter à un meilleur moment si on avait un suivi régulier de la vision du patient. Et donc notre enjeu, c'était assez marrant parce que notre enjeu, il était un, de nous assurer qu'on donnait suffisamment de points de vision aux médecins et qu'on détectait ces changements pour pouvoir faire revenir le patient plus tôt ou notamment quand on détecte tout simplement un changement de vision parce que la recommandation de la Haute Autorité de Santé quand il y a un changement justement de vision, elle est d'agir dans les 10-14 jours suite à ce changement. Et quand il y a un mois entre deux sessions, par exemple, ça peut arriver que malheureusement, il y ait des changements irréversibles de vision qui interviennent.
Ouais.
Et le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de ressources, forcément, il manquait au Decide, quoi. Il manquait, si tu veux, cette brique qui permette de faire un suivi de la vision à domicile. Et donc ça, on l'a isolé assez rapidement. Maintenant, on s'est dit, OK, la moyenne d'âge... de cette population, elle est entre 70 et 80 ans, donc il va falloir qu'on fasse jouer cette population qui n'est pas forcément digital native, qui n'est pas la population la plus gameuse, même si, alors bon, ça c'est une légende urbaine, mais même si les plus de 50 ans sont aussi nombreux à jouer aux jeux mobiles que les 15-25 ans.
Ouais.
C'est juste qu'il y a des jeux différents.
Et c'est ce que tu racontais sur un autre podcast où tu as été interviewé, où tu disais quelque chose d'intéressant, c'est que peu importe l'âge, en fait, tout le monde joue, mais les gens jouent simplement à des choses différentes. Et moi, j'aimerais comprendre comment vous avez inclus le patient dans la conception d'Odyssite, donc votre premier produit, qui est vraiment tout simplement pour une population qui est âgée, et qui est donc plus difficile à mettre sur du digital que si on s'attaquait à une population déjà digital native.
Ouais, c'est très juste. Alors, je pense que déjà, on a essayé de regarder les contraintes. Les contraintes, elles étaient liées pas forcément à l'âge, hein, parce qu'il y a des gens qui ont 75 ans qui globalement utilisent mieux leur smartphone que d'autres personnes qui en ont 55, mais qui étaient plus liées à leur capacité à bien lire, à bien voir. Donc, il fallait qu'on ait un jeu qui soit accessible. Il fallait que l'user experience soit il y ait le moins de texte possible pour éviter que les gens soient perdus, que en deux trois clics aussi les gens puissent directement arriver dans la partie gameplay, que donc il y avait et puis après il y avait quand même comprendre quels sont les types de jeux qui vont permettre à la fois de retenir l'utilisateur et aussi de nous donner, enfin en tout cas d'être en rapport avec la vision. Et donc on a regardé un peu la population cible et on connaissait très bien le marché et puis on avait des données démographiques quand on était chez Gameloft quand même sur quel type de jeu fonctionne avec quel type de population. On s'est rendu compte que c'était une population plutôt féminine qui avait une moyenne d'âge de entre 70 et 80 ans. Et donc on a listé tout simplement le type de jeu qui était possible de faire. Et puis après, il y a une réflexion. Et ça, c'est intéressant. C'est vraiment du processus créatif dans le jeu, mais les designers ont énormément réfléchi sur comment on va faire pour créer de l'affect par rapport au jeu. C'est-à-dire que assez vite, on s'est dit, si on veut que les gens puissent jouer, au-delà du fait qu'on avait isolé le fait qu'il faille faire un puzzle, on s'est dit, d'accord, on a vraisemblablement le gameplay de base, c'est-à-dire on a la mécanique de jeu qui va être de la reconstitution d'images, c'est ce qu'est Odyssite. On s'est dit, il faut quand même qu'il y ait à la fois le gameplay, mais qu'il y ait aussi une histoire, si tu veux, qui soit en lien avec ce que ces personnes-là aiment. Ce qu'il y a d'intéressant, si tu regardes, par exemple, il y avait Zynga qui avait fait Farmville à l'époque. Non, je crois que c'est... Non, c'était... Pardon, c'est King qui avait fait Candy Crush. J'avais vu un article là-dessus et qui avait dit notre population cible, c'est des personnes de 45 ans, des femmes plutôt. Et pour pouvoir définir ce qui va, d'un point de vue direction artistique, il faut que ça devienne une madeleine, si tu veux, de Proust. Donc, ils ont regardé quelles étaient les directions artistiques, ou en tout cas les mouvements artistiques les plus importants dans les années 60. Et ils ont recréé une DA qui était en fait, qui allait rappeler aux joueurs son enfance. Et donc, nous, on a une approche assez similaire. C'est-à-dire que d'un point de vue thématique, on a été chercher une histoire qui allait plaire à des personnes qui ont aujourd'hui 75-80 ans. Quels étaient le type d'histoire qu'ils aimaient entendre quand ils avaient entre 7 et 15 ans? Et donc, du coup, on est parti sur cette thématique du voyage, très Jules Vernienne, parce que ça correspondait vraiment beaucoup aussi avec ce côté générationnel. Après, sur les aspects artistiques, c'était une envie d'aller vers quelque chose qui était assez léché. Donc, un peu, alors je ne sais pas si tu connais, mais des jeux comme Journey ou Monument Valley qui ont cartonné sur mobile ou sur console à l'époque, c'était très léché. Et puis surtout, c'était ce qu'on appelle du low poly. Alors, ça va devenir technique, mais c'est il n'y a pas beaucoup de polygones à l'écran. Ça reste très beau, mais il n'y a pas beaucoup de polygones à l'écran. Et nous, ça nous arrangeait parce que d'un point de vue production, ça nous permettait de faire quelque chose de joli à moindre coût, parce que plus tu fais de polygones, c'est-à-dire plus tu complexifies ta forme, plus c'est lent à produire. Donc, si tu veux, il y a plein d'impacts comme ça.
Et justement, parlons un peu de la production. Vous, comment vous êtes lancé au tout début? Mon objectif, c'est de comprendre voilà, comment on développe quelque chose comme un jeu vidéo médical dans la santé, qui est donc un dispositif médical, parce qu'il va être prescrit par donc l'ophtalmo, et donc qui est dispositif médical classe 1. Et j'imagine qu'après vous voulez aller justement en développer de nouveau, donc pourquoi pas aller vers classe 2, classe 2A. Et justement, comment on va développer un POC, ou au moins votre premier produit, alors que voilà, la différence principale par rapport à une boîte, à un studio de production de jeux vidéo classique, c'est que c'est assez difficile de revenir et d'itérer sur un produit une fois que vous avez initié des essais cliniques.
Ouais, c'est très juste ce que tu dis. Alors, assez tôt, on s'est dit, d'accord, il va y avoir la production de jeux et il faut très vite qu'on implique des médecins, des responsables réglementaires, des chefs de projet cliniques pour comprendre, si tu veux, les tenants et les aboutissants de, de tout simplement développer un dispositif médical, parce que c'est un jeu vidéo, certes, mais c'est aussi un dispositif médical, comme tu l'as très justement dit. Donc, ce qu'on a fait, dans un premier temps, nous, on a fait cette phase de prototypage qui était vraiment pour nous assurer d'abord que le jeu fonctionnait et qu'il plaisait, et ensuite aussi que la donnée qu'on allait récupérer était pertinente. Et donc, on a travaillé avec une orthoptiste, on a travaillé avec des médecins, on a travaillé avec des associations de patients, avec des patients, on a fait pas mal de focus group pour s'assurer que tous les éléments étaient là. Et très tôt, si tu veux, contrairement à un jeu traditionnel, très tôt, tu vas mettre le processus réglementaire et clinique en route pour t'assurer que tout se parallélise et que ta production se fasse en parallèle. Alors, après, nous, la manière dont c'est passé, c'est que cette phase de prototypage, elle a duré en 2017 environ 6 mois. Après, sont arrivées les personnes du réglementaire et du clinique, et on a commencé à réfléchir à une stratégie réglementaire tout en nous permettant, si tu veux, de continuer à produire le jeu en parallèle. C'est aussi pour ça que dans Odyssey, aujourd'hui, les modules médicaux sont séparés de l'expérience core du puzzle. C'est-à-dire que la manière dont ça fonctionne, c'est que tu fais tes modules médicaux, ça te donne de l'énergie et tu rentres dans la partie jeu.
Ouais. Les modules médicaux, pour préciser, donc c'est des tests médicaux, c'est ça ?
Exactement.
Qui vont permettre tout simplement de collecter de la data pour savoir comment tout simplement le patient, la maladie du patient évolue.
Oui, exactement.
Donc c'est ça.
Il y a un test d'acuité visuelle et un test qu'on appelle la grille Amsler qui permet de savoir si la personne a des distorsions au niveau de sa vision centrale.
Ouais. Et donc via la caméra
On utilise la caméra frontale pour nous assurer que les tests médicaux sont faits dans les bonnes conditions. Et ça, si tu veux, c'était important en fait pour nous. Et c'est la partie DM véritablement du jeu. C'est ce qui va envoyer la donnée. Donc en fait, on a décidé de techniquement séparer la partie jeu pour nous permettre de continuer à créer du contenu. Maintenant, le jeu a quand même cet intérêt à la fois d'engager et surtout de faire de l'entraînement de mémoire visuelle. Mais la donnée qu'on va envoyer au médecin, c'est ce qui est récupéré par les modules. Et une fois que tu as fait tes tests visuels, ça te donne de l'énergie pour continuer à jouer. Donc, autrement dit, tu peux pas jouer si tu n'as pas fait ces tests visuels. C'est comme ça qu'on a conçu. Mais si tu veux, pour pouvoir arriver à cette finalité-là, il y a eu effectivement des process. La première phase de pré-prod, qui était la phase prototypage, où on a réfléchi à quel allait être le type de jeu et quelles étaient les données qu'on voulait récupérer pour le médecin. Ensuite, il y a la partie clinique et réglementaire où, en parallèle, une fois qu'on a validé le fait que le prototype fonctionnait et qu'on était sur une idée qui était bonne, là, on va continuer à produire le reste du contenu et on va améliorer notre techno pour nous assurer que la donnée qu'on récupère, elle est effectivement cliniquement validée et qu'on peut déposer notre jeu comme dispositif médical de classe 1. Cette phase-là, elle a duré environ 1 an et demi. Je cumule production du jeu plus l'aspect réglementaire et puis les aspects cliniques. Et après ça, il y a des mises à jour réglementaires à faire si on fait des améliorations au niveau du produit. C'est vrai qu'il y a plus de friction qu'à la création d'un jeu vidéo pur, mais ça reste quand même de la production de jeux. C'est de la production de jeux médicaux.
Justement, parlons du côté médical et notamment le nerf de la guerre, le financement, parce que c'est quelque chose d'assez long. Tu vois, tu peux pas sortir un premier produit, espérer avoir du cash qui rentre et le réinvestir direct. Comment ça se passe pour vous au tout début? J'ai vu que vous êtes allé très vite lever des fonds, et notamment auprès d'un acteur iBionext qui a déjà investi auprès de start-up tech notamment ChronoLife par exemple je sais plus Pixium Pixium Vision donc des start-up qui sont quand même qui étaient déjà à un stade tech santé avancé. Comment ça s'est passé pour vous cette décision de lever des fonds aussi vite, aussi tôt dans l'aventure?
En fait, c'était la corollaire du produit, parce que quand j'ai commencé à parler avec le professeur Sahel, iBionext était déjà là. Et si tu veux, quand on a commencé à discuter, qu'on a créé l'entreprise, on a tout de suite eu leur support, en fait. Et c'est un peu le modèle Le modèle d'Ibionext aussi, c'est de supporter des initiatives entrepreneuriales dès le début. Et c'est pour ça qu'on a pu lever de l'argent assez
tôt. C'est un studio, c'est ça, hein?
Ouais, exactement. C'est un venture
studio. C'est pas juste,
Ils ont été clairement acteurs dans la création aussi de l'entreprise, si tu veux. C'est-à-dire que moi, pour changer, tu m'en parlais au début, comment on fait de partir d'une situation comme celle de Gameloft pour aller dans l'entrepreneuriat, c'est que je suis père de famille et j'avais aussi cette envie, bien évidemment, de faire de l'entrepreneuriat, mais j'avais envie aussi de m'assurer que je pouvais mettre en mouvement mes idées et commencer à opérer correctement, parce que j'ai très vite su ce que ça allait impliquer d'un point de vue budgétaire. Quand on fait un dispositif médical, il faut effectivement produire le jeu, mais il faut aussi le valider cliniquement, et ça coûte de l'argent. Il faut faire le processus réglementaire, et pour aller au marché, il a fallu environ 2 ans et demi, ouais, pour arriver au marché. Et donc, peut-être un peu moins. On est arrivé au marché en mai 2018. Non, c'est ça, mai 2018. Non, un an et environ 2 ans en tout. Environ 2 ans. Et donc, ça veut dire qu'il faut quand même payer les gens qui vont faire. Il faut payer les essais cliniques, il faut payer les aspects réglementaires. La prod. Donc, on a levé très rapidement...
2,5 millions.
2,5 millions, voilà, exactement. Et une fois qu'on est arrivé sur le marché, on a fait une deuxième levée de 4 millions, toujours avec Ibionext, pour pouvoir déployer la solution d'un point de vue commercial. Et là, c'est la deuxième phase.
Et là, vous aviez déjà un business model en tête. Le business model, c'était le remboursement sur le long terme. Mais est-ce que à court terme, vous aviez quelque chose pour tout simplement survivre et pour prouver que voilà, il y avait un intérêt du marché et que le but n'était pas simplement d'attendre.
Ouais, c'était très compliqué parce que quand on a commencé, il y avait au final dans le domaine des thérapies digitales, du suivi à domicile, c'était encore assez nouveau. Effectivement, nous on est sur un modèle de prescription, donc sur un modèle de remboursement. Maintenant, on s'est dit, il faut qu'on déploie la solution commercialement. Et comment on fait, sachant que à la fois les patients et les médecins sont... Enfin, on ne voulait pas faire payer les médecins parce que c'est un outil qui est à leur service et qui est surtout au service du patient aussi. Et les patients n'ont pas cette propension à payer en France. Donc, on s'est dit, pour pouvoir se rendre compte si ça a un vrai impact, on va faire déjà la solution dans un premier temps gratuite pour le patient et les médecins et se rendre compte si sur le marché, il y a une appétence des patients et des médecins. Et ça, on a été assez convaincu assez vite de la manière dont ça fonctionnait. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, pour aller chercher le remboursement, il faut qu'on déploie plus rapidement. Pour déployer plus rapidement, il faut avoir une force de vente expérimentée parce que la manière dont on distribue un produit qui est prescrit, c'est via du face-à-face avec le médecin. Et donc, on a signé un accord de copromotion avec Novartis. Et c'est comme ça que, si tu veux, on a commencé à générer nos premiers revenus. Et cet accord-là, donc Novartis distribue la solution avec sa force de vente auprès des médecins, nous permet de générer nos premiers revenus et en même temps de créer plus de données de vie réelle pour aller chercher le remboursement à terme. Ouais. Voilà.
Est-ce que tu peux expliquer concrètement, ça veut dire quoi, donc distribuer par la force de vente? Est-ce que ça veut dire que c'est inclus en fait dans un package que Novartis va vendre via des commerciaux, ou est-ce que on va vendre l'appli, on va vendre la solution directement? Enfin, tu vois, j'ai du mal à comprendre.
Ouais, bien sûr.
Comment tu vends Audisite?
En fait, c'est plus que de la vente, c'est une proposition de service, puisque Audisite est gratuit pour les médecins. Mais c'est quand même des visiteurs médicaux qui vont voir les rétinologues, en l'occurrence ceux qui suivent des patients atteints de maladies chroniques des yeux liées à l'âge, comme la DMLA ou la rétinopathie diabétique. Et c'est la force de vente de Novartis qui présente la solution, qui explique comment ça fonctionne et qui éduque en fait tout simplement la population cible de médecins sur l'usage et sur l'intérêt d'Audisite. Et une fois que le médecin dit ah oui, ça peut m'intéresser, c'est nous qui prenons en général la main pour faire la formation sur comment on va utiliser, comment l'implémenter de manière efficace dans le centre et comment prescrire à ses premiers patients. Donc c'est vraiment une distribution assez similaire à celle d'un nouveau traitement, en fait.
Ok, d'accord. Et justement, ça c'est intéressant parce que voilà, moi je m'imaginais jamais, tu vois, que passer via une force de vente externe, ça soit le meilleur moyen de vendre une application. Et est-ce que tu aurais, toi, des conseils, bah, tout simplement pour des entrepreneurs qui lancent donc des solutions, pas forcément dans les thérapies digitales, ce qui n'est pas le cas de D-Sight, vu que le D-Sight, on peut l'approprier à la télésurveillance, j'imagine, via une appli.
Oui, écoute, c'est une bonne question. Si jamais j'avais la recette miracle, bon, j'adorerais la transmettre. Après, je ne sais pas si je la transmettrais. Non, mais la réalité, c'est que ça dépend énormément du secteur, ça dépend énormément de comment il est structuré. C'est-à-dire que nous, il y a peu de rétinologues en France, il y a peu d'ophtalmos. C'est une discipline qui est quand même très spécialisée, donc il faut vraiment, nous on voulait quand même avoir une force de vente qui avait de l'expérience pour pouvoir aller distribuer la solution. Il y a certainement d'autres manières aussi de distribuer, mais il faut voir que 80% des médecins, ou en tout cas pré-Covid, parce que maintenant ça change un tout petit peu, mais 80% des médecins pré-Covid préfèrent les interactions face à face quand il s'agit d'interactions commerciales. Ouais. Donc, nécessairement, quand on veut présenter quelque chose qu'ils vont prescrire, il faut aller faire du face-à-face et du porte-à-porte. Et on le voit, si tu veux, avec Doctolib. Alors, c'est pas le même produit, hein, que
nous. Non, c'est pas de la productivité, oui.
Mais ils vont quand même sur place vendre la solution.
Et justement, est-ce que ça, c'est pas un problème, on va dire, dans le futur, quand vous allez chercher à développer de nouveaux produits, tu vois, un problème de scalabilité? C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez développer un nouveau produit, finalement, donc vous allez devoir travailler énormément sur potentiellement une nouvelle pathologie. Et à chaque fois, il va falloir trouver un nouveau moyen de le distribuer et potentiellement repartir à zéro. Tu vois, c'est pas comme si vous aviez déjà quelque chose qui est établi, un moyen de distribuer qui est central et qui restera le même.
C'est une très bonne question. Après, alors premièrement, on se spécialise quand même beaucoup sur la verticale ophtalmologie en ce moment, parce que, comme tu le dis, déjà, on a beaucoup de contacts, on a pas mal de rétinologues aujourd'hui qui utilisent Audisight. Il y en a 200 en France qui utilisent fréquemment Audisight, donc c'est quand même beaucoup, un peu partout d'ailleurs sur le territoire, sur 1500 en tout, donc on a quand même déjà une bonne base installée. Maintenant, ta question, elle est intéressante. Après, il faut nous considérer comme un labo pharmaceutique, mais digital. Si on va dans d'autres domaines thérapeutiques, il faudra certainement avoir une expertise dans l'ère thérapeutique en question, trouver potentiellement des partenaires qui pourront nous aider ou pas. Je ne sais pas encore. Mais c'est les avantages et c'est l'avantage et le fardeau d'être un peu dans les premiers à faire quelque chose, quoi. On est obligé d'éduquer la population qui va au final prescrire nos dispositifs. Après, je pense qu'il y a de plus en plus de moyens d'éduquer quand même, d'éduquer ou de présenter aux médecins. On le voit quand même, ils sont de plus en plus digitalisés. Il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à parler d'App Store, de thérapie digitale. Je sais qu'IQVIA, par exemple, au Royaume-Uni, commence à créer AppScript. Alors, c'est plutôt pour les médecines générales, mais c'est quand même une sorte d'App Store pour les thérapies digitales, pour permettre justement aux médecins de tester des nouvelles choses et des nouvelles thérapies. Donc, je pense que ça va évoluer.
Est-ce que tu pourrais nous partager un peu un état des lieux de combien de patients sont suivis sur Audisight et tout simplement quelle part de marché, on va dire, ça représente pour cette maladie.
Ouais, alors aujourd'hui, on a un peu plus de 2700, environ 2700 patients qui ont été prescrits avec Audisight. Ça représente environ un peu plus de 1% de la population cible en France. Maintenant, c'est, c'est, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de regarder d'abord la base installée, parce que c'est quelque chose, si tu veux, qui est un peu à la manière du médicament, qui prend un petit peu de temps à se déployer. Le remboursement va forcément avoir un effet aussi sur cette courbe d'acquisition de nouveaux patients, en somme. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en l'espace d'un an et demi maintenant de copromotion avec Novartis, on a quand même installé plus de 200 sur 1500 rétinologues, et on espère être chez près de 30% d'entre eux d'ici la fin de l'année, ce qui derrière va nous permettre très largement d'augmenter notre reach et le nombre de patients. Mais je pense que plus que le nombre de patients en valeur absolue, ce qu'il y a d'intéressant, c'est combien reste et quel est l'impact sur le parcours de soins. Et c'est ce qu'on entend prouver. On a déjà des cas cliniques qui sont extrêmement forts avec des patients, notamment pendant le Covid, qui ont eu une alerte D-Sight. S'il n'y avait pas eu D-Sight, ils auraient vraisemblablement perdu la vue sur l'œil qui était affecté. Et je pense que c'est des mouvements de fond qui doivent être accompagnés par des changements aussi politiques sur le remboursement, notamment de solutions comme les nôtres. Mais voilà à peu près où on en est.
D'accord. Et justement, pour le futur, toi, c'est quoi tes grandes inspirations en termes, tu vois, d'application du jeu vidéo dans d'autres industries que la santé? Est-ce que tu t'inspires de modèles existants je sais pas, dans le secteur automobile, tu vois, dans d'autres milieux, et tu dis, waouh, tu vois, il y a encore tellement de chemin à faire et c'est là que je veux aller?
Je crois qu'il y a... Alors... Sur l'impact du jeu vidéo de manière sociétale, il est de plus en plus important. Le meilleur exemple que j'ai en tête, c'est Fortnite, où littéralement des gens comme Travis Scott, enfin des artistes font des concerts maintenant dans Fortnite. Les marques engagent avec leurs consommateurs dans Fortnite. Je pense que la puissance du jeu vidéo, c'est plus seulement un outil de divertissement, c'est véritablement devenu un mode de consommation. Et je pense qu'il faut l'accepter, que ça a bouleversé pas mal de choses. Les gens jouent, et je trouve ça génial. C'est vrai que c'est mieux de jouer pour faire quelque chose que de pas jouer. Enfin, bon, personnellement, moi, je suis un grand joueur, donc voilà. Après, c'est une question qui est forcément difficile à... qui est difficile de répondre. Comment est-ce que je vois, enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà de changer, si tu veux, la manière dont on fait le suivi de vision à domicile en utilisant le jeu. C'est la première objectif, et je pense qu'on est à 2-3 ans de l'être à l'échelle internationale avec TILAC, tu vois, c'est vraiment l'ambition qu'on a et c'est là où on veut aller. Après, je pense qu'on peut faire du medical gaming un standard en allant chercher d'autres pathologies, notamment dans le domaine des neurosciences. On en voit d'ailleurs certains aux États-Unis comme Aquili Interactive qui commence à faire des jeux pour l'hyperactivité. On adore ce secteur, on pense qu'il y a des choses hyper intéressantes. On ne veut pas forcément faire de l'hyperactivité, mais en tout cas, utiliser le jeu et ses vertus thérapeutiques, c'est hyper intéressant. Après, je suis pas un devin. Je crois que les innovations, elles sont essentiellement incrémentales. Que le jeu vidéo va avoir une place de plus en plus importante dans la société et qu'il faut l'assumer complètement. Et nous c'est ce qu'on fait. Et puis en réalité, quand on voit que des patients de 75 ans aiment le jeu, peuvent mieux suivre leur vision grâce au jeu, je pense qu'on devrait juste s'en réjouir.
Je pense que tu touches un point important, c'est que là vous avez donc beaucoup travaillé sur le produit et le besoin, et que là vous allez pouvoir tout simplement passer à l'échelle une fois que vous aurez tout simplement démontré que voilà, il y a un réel impact et que vous avez fait tout ce travail en amont. Je pense que vous avez toutes les armes, et notamment avec votre partenariat avec Novartis, tu le disais, pour aller sur de nouveaux marchés. Je pense que ça va être une clé de succès et je vous souhaite plein de réussite là-dessus. J'aurais une dernière question, Edouard. Si tu devais donner un conseil au Edouard qui tout simplement sort d'école, attaque sa première expérience pro et qui songe à entreprendre dans la santé.
Ouais, à l'époque, c'est marrant, hein, j'anticipais pas d'aller dans la santé. Je pense que ça nourrit de manière mature. Mais imaginons que, enfin, ça s'est nourri au fil du temps. Mais imaginons que je veuille aller dans la santé. Je pense qu'il faut très vite anticiper quand même les enjeux les enjeux réglementaires et cliniques nécessaires pour faire un dispositif médical. Je pense qu'il faut itérer quand même rapidement. C'est-à-dire qu'il faut, il faut apprendre du digital. Il faut apprendre du digital pour faire évoluer aussi la manière dont on produit des dispositifs médicaux. C'est-à-dire que d'une certaine manière, j'étais très naïf quand je suis arrivé, quand j'ai monté Tilac. Je me suis dit, on va faire ça, on va tester sur le produit sur le marché hyper rapidement. On va itérer, on va bouleverser le monde de la santé. Je pense qu'il faut garder cette naïveté-là parce que c'est cette naïveté qui fait avancer les choses. Maintenant, cette naïveté, elle doit être génératrice d'énergie. Et je pense que c'est quand même important assez rapidement de bien s'entourer, surtout sur des aspects cliniques et réglementaires, pour éviter de devoir derrière rattraper le coup et du coup perdre du temps. Moi, j'ai eu la chance d'être très bien entouré au début de mon aventure Tilac, et j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, si tu mets pas quelqu'un de réglementaire dans ton équipe maintenant, tu vas devoir refaire le travail en arrière et ça va être insupportable. Donc je pense que il faut avoir énormément d'énergie et d'ambition, ça c'est sûr et certain. Et derrière, quand on itère, il faut être patient et il faut prendre les choses les unes après les autres et de manière extrêmement organisée. Voilà.
Ben merci beaucoup Edouard en tout cas pour ces conseils et puis je souhaite beaucoup de réussite à Tilac.
Merci à toi, c'était un plaisir.
J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lui laisser une super note sur ton appli préféré de podcast et à en parler autour de toi. Tu peux également m'envoyer un message sur mon LinkedIn Jean-Baptiste Michel afin de me dire ce que tu en penses. Moi, je te dis à très vite pour un prochain épisode d'Entreprendre dans la santé.